Cube Radio.
Ici, je pense, une belle photo qui montre bien l'air très jeune de Catherine, là, ici. Oui, adorable, adorable, adorable. Ouais. Là-dessus, elle a peut-être début vingtaine, là. Fait que, mais elle a l'air beaucoup plus jeune que ça. On écoutait la série Rome dans le temps. Puis elle m'avait dit « Attends-moi pour écouter telle émission », puis ouais. Fait que c'était le mardi, puis elle est décédée le jeudi.
On est le 11 décembre 2008.
Je me rappelle d'avoir texté Catherine qui partait du travail, puis j'avais dit « Arrête donc par chez nous, on va souper ensemble et tout ». Et elle a dit « Ah non, je suis fatiguée, je vais aller à la maison ». Fait que « OK, ben sans souci ». Puis elle dit « Je vais t'appeler plus tard », mais elle ne m'avait pas rappelé.
À 19h, il y a un feu sur la 5e avenue à Montréal. Les pompiers défoncent la porte de l'appartement. Dans les décombres, on retrouve Catherine Daviau.
Nous sommes le 11 décembre 2008. Une jeune femme, toute menue, dont tout le monde vante la gentillesse, est retrouvée morte dans son logement.
Sur le lit, il découvre un corps nu, frêle, violenté et ligoté.
C'était une jeune fille qui était tout à fait sans histoire.
Qui mesurait même pas 5 pieds, même pas 100 livres. Une toute petite fille.
Elle a souffert le martyre avant de mourir. Et son assassin a même tenté de brûler son corps avant de disparaître.
13 ans après le meurtre, le coupable court toujours.
On s'est demandé de quoi était décédée. Le fait qu'elle ait été violée, c'est qu'elle était consciente, puis à quel point elle savait ce qui s'en venait par après. À quel point elle s'est pas dit « OK, je me ferme les yeux, puis après ça, il va s'en aller ». À quel point elle a eu mal, à quel point elle a eu peur. C'est vraiment dégueulasse de penser à ça.
Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La 3e saison, le cas Catherine Daviau. Il n'y a pas seulement la pandémie qui nous a poussés à prendre une longue pause entre la saison 2 et la saison 3 de Synthèse. Au moment où je vous parle, on vient de souligner les 10 ans du meurtre de Valérie Leblanc. Dans quelques jours, le 15 novembre, ça va faire 20 ans que Louise Chaput a été assassinée au New Hampshire. C'est des histoires qui nous accompagnent toujours dans l'équipe et qui nous hantent. Quand la journaliste Claudia Larochelle m'a parlé de l'histoire de Catherine Daviau, un cas qui l'obsède depuis 10 ans, j'ai longtemps hésité à me lancer dans un projet de la sorte. Je dois avouer que je me suis posé beaucoup de questions sur l'éthique du true crime et sur ma position d'homme qui finit toujours par documenter des meurtres sordides de femmes innocentes. L'équipe de Transistor, la boîte qui fait la série, a donc décidé de laisser la place à une équipe entièrement féminine pour décortiquer le cas Catherine Daviau. Pour accompagner Claudia dans sa démarche, on l'a jumelée à une réalisatrice prometteuse, Maude Pétel-Légaré. Je laisse donc Maude et Claudia vous guider dans leur quête pour faire la lumière sur le cas et vous raconter l'histoire de Catherine Daviau.
Est-ce que tu veux nous indiquer où est-ce qu'on arrive?
Tu vois, on est sur Masson, puis là, on s'en va sur la 5e avenue. On s'en va vers le sud.
J'habite le quartier Rosemont depuis l'an 2000. Cette année-là, je quitte la maison familiale sur la rive sud de Montréal pour m'installer enfin en appartement dans la grande ville. À ce moment-là, je suis au début de ma vingtaine et je viens de terminer mon bac en journalisme à l'UQAM. J'habite seule dans un 4,5 sur la 5e avenue, très près d'où on se dirige. Je me me demande combien de fois Catherine Davio, une voisine de 26 ans que je connaissais pas, a pu faire ce chemin-là. Est-ce qu'elle l'a emprunté le jour du 11 décembre 2008?
Non, c'est pas... C'est-tu là? Oh, je me rappelle pas. C'est soit là ou là.
Je l'imagine, Catherine, débarrer sa porte plus rapidement qu'à l'habitude avec ses doigts frêles et gelés. Se dépêcher de rentrer dans le confort rassurant du petit 3,5 qu'elle habite seule. Je l'imagine retirer son manteau, sa tuque, replacer ses longs cheveux blonds d'un geste furtif. Penser à ce qu'elle va se préparer à souper, peut-être se faire livrer quelque chose. C'est un jeudi comme tous les autres.
Quand je suis arrivée, mais c'est sûr, les rues étaient barrées. Il y avait les grosses vannes des crimes majeurs du SPVM de Montréal. Mais tu sais, je me rappelle, là, en haut, là, tu voyais, tout... il y avait des... Là, ils ont nettoyé, mais c'était tout noir. Je me suis présentée, ils m'ont identifié, tout, OK, la sœur, puis ils m'ont demandé, ils m'ont dit qu'elle avait été victime probablement de... c'était probablement un meurtre, puis quand on l'avait retrouvée dans son logement, ils m'ont dit que, tu sais, le feu avait été... Il y a quelqu'un qui avait mis le feu, puis c'était un voisin, là, qui avait téléphoné pour dire qu'il voyait de la fumée sortir de son appartement. Fait que...
Comment t'as réagi quand les policiers t'ont annoncé ça?
De la stupéfaction, de la colère, de la... Tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça? Tu sais pas, parce que, tu sais, quand tu regardes son passé, tu te dis qui a pu faire ça?
L'homme qui a fait ça est toujours en liberté et c'est injuste qu'il n'ait pas été puni pour son crime. Injuste et inquiétant.
Mireille Luc.
Bonjour, on est en bas, donc je pense qu'il fallait qu'on vous appelle. On a rendez-vous avec la sergente détective Nadine Landry.
Au revoir.
On la rencontre au quartier général du SPVM sur Saint-Urbain.
Ah, la voilà!
Bonjour. Mettons une chose au clair. On n'est pas ici pour faire le travail à la place des policiers et des enquêteurs.
Bonjour. Merci, vous êtes Nadine.
C'est vraiment elle qui connaît le plus l'affaire. J'ai hâte de voir où en sont les développements 13 ans plus tard.
Le dossier de Catherine, je veux dire, j'en ai entendu parler quand je suis arrivée au crime majeur. L'enquêteur avec qui j'ai été jumelée, mon partenaire de travail à ce moment-là, le sergent détective Antonio Paradiso, travaillait sur ce dossier-là. Donc, par la force des choses, j'ai travaillé avec lui dans ce dossier-là. Et quand M. Paradiso a pris sa retraite en mai 2018, j'ai repris la relève du dossier de Catherine Davio. Là.
La sergente détective Nadine Landry pourrait jouer dans District 31 ou dans une série policière comme CSI. Je trouve qu'elle a la tête de l'emploi. Elle doit être dans la quarantaine. Elle est sérieuse, droite, à son affaire. On sent que ça niaise pas, qu'elle n'est pas du genre à s'en faire passer. Depuis 2015, elle est aux crimes majeurs, aux homicides. Avant, il y a eu pas mal d'autres enquêteurs qui se sont occupés de l'affaire Catherine Davio.
Ce dossier-là, c'est un dossier du 11 décembre 2008.
Comme tous les jours, Catherine part de chez elle pour aller travailler dans une entreprise à Pointe-Claire, dans l'ouest de l'île. Mais c'est en revenant de la job que l'affaire se corse.
C'est arrivé en soirée, soit vers l'heure du souper. Ce qu'on peut comprendre, c'est que Catherine, lorsqu'elle a fini de travailler, elle s'est rendue chez elle.
Catherine quitte le travail vers 16h30. L'ouest de l'île et Rosemont, c'est assez loin. C'est une trentaine de kilomètres de distance. À l'heure de pointe, ça peut prendre jusqu'à une heure et quart. Ceux qui vivent à Montréal le savent. Dans ce coin-là, il y a toujours du trafic sur la 40.
Il y avait une tempête de neige cette journée-là, donc ça lui a pris quand même un certain temps à se rendre chez elle en voiture. Et on estime qu'elle serait peut-être arrivée vers 5h30, 6h chez elle le soir.
Catherine garde sa voiture près de chez elle. Il y a la première grosse tempête de neige dehors. Sachant ça, combien de temps ça lui prend pour trouver un stationnement? On ne sait pas, mais disons que jusque-là, ça ressemble à la routine de pas mal de Montréalaises et de Montréalais.
Et à 19h07, il y a eu un appel au 911 pour de la fumée provenant de son appartement. Donc, les pompiers sont allés sur les lieux et ont fait la découverte du corps de Catherine, là, qui était nue. Elle a été agressée sexuellement et on a pu retrouver le corps de Catherine dans les décombres.
Catherine arrive chez elle vers 17h30, 18h. À 19h07, les pompiers retrouvent son corps. En l'espace de moins d'une heure et demie, elle revient chez elle, se fait assassiner et le tueur met le feu à son appartement. Tout ça sur l'heure du souper, sans que personne ne s'en rende compte. Comment c'est possible?
Vous vous demandez ce qui pousse votre voisin à croire qu'un groupe de pédophiles satanistes domine secrètement le monde? Ou pourquoi certaines de vos connaissances dénigrent toute campagne de vaccination? Peut-être même doutez-vous que le président Kennedy ait réellement été assassiné par un tireur solitaire? Vous n'êtes pas seul. Je m'appelle Alexandre Moranville-Ouellette, et je vous invite à découvrir les secrets de ces théories du complot grâce au balado « Ce n'est qu'une théorie », disponible sur Cube Radio et toute autre plateforme de balado.
Ce n'est qu'une théorie est récipiendaire du prix de la meilleure série balado au Canadian Online Publishing Awards 2021, en plus d'avoir été nommé au Canadian Podcast Awards en 2022.
C'est là, c'est exactement là. C'est là que Catherine a habité quand elle a été assassinée. Ouais, c'était le rez-de-chaussée. On peut demander aux gens s'ils savent c'est qui habite là.
Ah, mais oui.
Est-ce que vous connaissez les voisins qui sont là?
Ah, pour savoir, c'est parce qu'il y a
quelques années, il y a une jeune femme qui a été assassinée là. Ils t'ont jamais parlé de ça?
Non, pas d'histoire-là, non.
Je sais que ma voisine, la voisine derrière, Kathleen, elle va avoir 110 ans. Est-ce que peut être une fille intéressante pour vous?
Kathleen, cette ancienne du quartier qui devrait en connaître pas mal sur ce qui s'est passé ici ces dernières années. On va y revenir.
Tu sais, je savais pour le feu, puis ça semble être quelque chose de caché, peut-être. Tu sais, du moins, si c'est pas nommé qu'il y a eu un homicide en même temps.
Mais peut-être que tu ne viendras plus la maison.
Ouais, mais ça m'effraie moins puisque j'habite pas un premier. Mais j'avoue que vivre à un rez-de-chaussée, ça me rendait plus nerveuse quand j'étais ici. Maintenant que je suis un troisième, étrangement, je me sens plus protégée. Je me sens moins accessible, puis j'ai plus d'intimité d'une certaine façon. Mais je suis toujours effrayée de je te dis, on a cette réflexion-là, je pense, quand on est une femme, de faire « qui me regarde rentrer chez moi? »
Absolument.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voit ce que c'est?
Je réalise que les femmes seules sont peut-être plus en danger au rez-de-chaussée. Une question de proximité avec la rue. Catherine habite au rez-de-chaussée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'observe depuis longtemps? À 17h30, 18h, au mois de décembre, il fait déjà noir dehors. Est-ce que Catherine ressent une crainte à cet égard-là? Est-ce qu'elle se sent observée? Je me demande si elle a pris l'habitude de fermer ses rideaux.
C'était un jour de tempête de neige à Montréal.
Un autre élément qui est important cette journée-là, c'est que Catherine, sur la route, parle au téléphone avec son amie Véronique Duchesne. Vers 17h30, elle s'appelle.
Elle dit « Arrête donc chez moi, on va passer la soirée ensemble. » Puis Catherine avait dit « Non, je suis fatiguée, je préfère rentrer chez moi. De toute façon, sortir de l'autoroute, il y a vraiment beaucoup de trafic à cause de la tempête de neige. » Puis elle avait décidé de rentrer chez elle.
D'appeler quelqu'un, qu'est-ce que ça nous révèle comme information?
Bien, c'est sûr que... je vais commenter parce que, bon, vous avez l'information, là, mais c'est sûr que c'est difficile pour moi de vous donner toutes les grandes lignes du dossier là, d'enquête, comme c'est un dossier non résolu. Il faut que je sois prudente sur ça. Mais oui, ça nous donne une fenêtre d'opportunité, si on veut, pour que l'agression soit commise et que le feu soit mis, là, et tout.
Et le fait que Catherine Davieux était une personne assez routinière, justement, et très organisée, est-ce que c'est important, justement, dans l'enquête?
Les gens sont de façon, là, en général, là, on est tous très routiniers. Est-ce que d'être routinier est mauvais? Non, pas en soi. Et le dossier de Catherine, c'est vraiment là, quelqu'un qui soit l'attendait, qui l'observait. C'est ce que je peux vous répondre sur ça.
Qu'est-ce qu'on sait sur l'agresseur actuellement?
C'est sûr que c'est un dossier qui est en cours. Il y a certaines choses que je ne peux pas dévoiler. Ce qu'on peut dire, ce qui a déjà été dit aussi, c'est que les portes de Catherine étaient barrées quand les pompiers sont arrivés chez elle. Donc, c'est soit que l'agresseur peut être une personne que Catherine connaissait, ou soit que c'est une personne qui a cogné à la porte et que Catherine a ouvert la porte. Ça peut être une autre option qu'il faut regarder, là. Mais c'est une personne qui avait possiblement planifié certaines choses de par ce qu'elle a laissé. Mais je pense que cette personne-là a peut-être été trop loin. Il a fallu qu'elle maquille son crime, puis elle n'a pas eu la chance de que tout fonctionne comme elle espérait, là. Donc, c'est pour ça qu'on est en mesure de trouver certaines pièces du puzzle, là, comme on peut appeler.
Là, il se passe quelque chose qui nous étonne un peu. La sergente détective sort son agenda de son sac. Et sur la couverture, il y a une photo de Catherine Davieux. J'avoue que c'est rassurant de voir que ce cas-là la préoccupe particulièrement.
Catherine, je veux dire, elle a été tuée chez elle. Je suis une femme. Quand on est chez nous, on devrait être en sécurité. On est en sécurité quand même dans la rue. À Montréal, le taux d'homicide est bas et tout. Donc, il faut comprendre que ce dossier-là, c'est un dossier qui me tient quand même à cœur parce que c'est un crime gratuit.
Catherine, c'était une petite blonde aux yeux bleus qui parlait bien, qui était polie, qui avait un beau passé, qui a été dans des bonnes écoles, qui a été bien élevée. Elle avait des bons amis, elle avait, tu sais, des relations stables, elle avait... C'était pas quelqu'un qui était connu du milieu, tu sais, de la drogue, de...
C'est une bonne petite fille.
C'est une bonne petite fille.
Il y a comme une partie qui est le deuil normal de perdre un être cher, mais il y a une partie aussi beaucoup qui est la révolte face à comment ça s'est passé. Catherine n'est pas décédée dans un accident de voiture ou elle n'est pas décédée d'une maladie. Là. Elle s'est fait enlever ça, elle avait 26 ans.
Catherine Davieux, 26 ans, habite seule. Elle est assassinée en rentrant du travail sur l'heure du souper. On est le 11 décembre 2008. C'est un soir de tempête. Ça se passe chez elle, sur la 5e avenue, dans le quartier généralement paisible de Rosemont, à Montréal. Tout ce qu'on sait, quand les pompiers arrivent sur place, il n'y a aucune trace d'effraction. Et son assassin a pris le temps de barrer la porte en quittant. Ça se passe à quelques mètres de chez moi. Et le meurtrier, lui, court toujours.
Dans le prochain épisode de Synthèse.
Question de précision. Quand tu disais que la locataire qui habite aujourd'hui dans l'appartement où Catherine Davieux a été assassinée, est-ce qu'elle savait qu'il y avait eu un meurtre et un incendie?
Non, c'est ça. Ce qu'on lui a rapporté, c'est que Catherine avait mis sa voiture en vente sur Craigslist. Et ce que la police avait dit, c'est qu'il y avait eu d'autres femmes seules qui avaient mis des affaires en vente sur Craigslist. Donc, est-ce que c'est le pattern d'un tueur en série? Ça pourrait être une hypothèse.
Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Maude Pétel-Légaré. Journaliste et animatrice, Claudia Larochelle. Montage, mixage et conception sonore, François Larivière. À la recherche, Claire Thévenin. À la production, Stéphanie Lorrain. La musique est de Francis Faubert, Jean-Sébastien Côté et François Larivière. Si vous avez des informations sur le cas Catherine Davio, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info@transistor.media. Je m'appelle Julien Morissette. Merci de nous écouter.